Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aller à la découverte de l'innovation, du savoir-faire et du développement. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Ayal Iraqi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Aya?
Ça va, alhamdoulilah, très bien. Je vous remercie pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Yasmine.
Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir. Alors Aya, vous avez un très très joli parcours.
J'ai directement intégré le monde du business avec le projet Cuimer. Donc moi, quand j'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'ai lancé mon projet quand j'étais toujours étudiante.
Cuimer.
Cuimer, effectivement.
Incroyable.
J'avais fait quelques stages, effectivement. J'avais effectué des stages, mais pas travaillé directement dans des boîtes. Donc, Cuimer, c'était vraiment ma première expérience professionnelle.
D'accord. Et ça date depuis 9 ans, en fait.
À peu près, effectivement. Ouais. Depuis 2017, quand j'étais étudiante, mais officiellement, l'activité a démarré en 2019.
Alors, expliquez-moi exactement comment la jeune étudiante que vous étiez à ce moment-là s'est intéressée au cuir de poisson.
Alors, mon parcours n'a pas vraiment commencé par un plan parfait, mais plutôt par une frustration. Moi, après le bac, je voulais faire une école de mode. J'étais vraiment très passionnée par ce domaine. Mes parents voulaient que je suive un parcours qui était plus classique, faire un parcours de grandes études, de grandes écoles. Pour eux, c'était inadmissible de faire un autre parcours que ça, que voilà, faire la mode, surtout au Maroc, c'était pas un vrai parcours pour eux. Donc ils voyaient qu'il fallait absolument que je suive un peu le parcours classique de mes cousins, mes cousines, etc. Et donc de faire la même chose, d'intégrer une grande école de commerce et voilà, poursuivre mes études.
Absolument. Ok. Donc, vous avez fait quoi comme études finalement?
Alors, en fin de compte, j'ai pris une décision un peu rebelle. J'ai fait l'université d'économie et gestion à Casablanca. Tout simplement parce qu'on m'a dit qu'à l'université, on a plus de liberté, plus de temps. Et donc, je voulais vraiment avoir ce temps pour découvrir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et donc, c'est là que le destin m'a mis sur la route de l'entrepreneuriat. Parce que c'est là où j'ai rencontré un groupe d'étudiants qui voulaient changer le monde à travers des projets à impact environnemental et social. Et donc, ensemble, nous avons lancé un projet fou qui est de transformer les déchets de poissons en cuir exotique.
Comment vous êtes arrivé à cette idée-là aussi pointue?
Alors, c'est très simple. Le but, c'était vraiment de créer des projets à fort impact environnemental et social. Parmi les problématiques qu'on avait, c'était les déchets de poissons qui étaient sur les côtes d'Azmour et de Casa. Et donc, on a commencé à chercher des solutions. On avait pas mal d'options, soit faire des engrais, soit faire d'autres produits comme ça de la mer. Et parmi les autres solutions qu'on avait trouvées, c'était le cuir de poisson, parce que c'était une pratique très ancienne qui se faisait dans les pays scandinaves, parce qu'eux, ils n'avaient pas le cuir traditionnel qu'on a nous. Ils n'avaient que le poisson. Et donc, à partir de la peau de poisson, ils transformaient le cuir.
OK.
Et donc voilà, c'était une ancienne tradition. Et donc parmi ces propositions, on a choisi tous ensemble le cuir de poisson.
Et donc ça, c'était un projet de groupe au départ ou c'était vraiment rentré dans l'entrepreneuriat? Ou là, c'était juste un petit test?
Alors c'était entre les deux parce que quand même, c'était plus structuré. C'était dans un club qui s'appelle Inactus.
Oui.
C'est un club d'entrepreneuriat social pour les étudiants. Donc, c'était plus structuré, mais en même temps, rien n'était engageant.
OK.
Donc, au départ, ça a commencé avec un groupe d'étudiants. Je pense qu'on était 10, entre 10 et 15 personnes. En fin de compte, on a fini avec 2 personnes. Et aujourd'hui, c'est moi qui est restée dans ce projet.
Alors, quand vous dites rien d'engageant, c'est-à-dire financièrement ?
Financièrement, en termes de temps aussi, parce que c'était juste un projet de universitaire, rien d'engageant, en vrai.
Mais vous vous êtes engagé, j'imagine.
Mais effectivement, moi, c'était vraiment un projet qui regroupait tout ce qui me passionne, la mode, le business, l'environnement, le social. Donc vraiment, c'était ce que je voulais faire.
Ouais. Alors, aujourd'hui, ça en est où ? Et après, on va revenir au process. Ça m'intéresse en fait de comprendre le process. Aujourd'hui, vous en êtes où avec ce projet qui a commencé à l'université, avec un groupe d'amis qui voulaient simplement, comme vous avez très joliment dit, changer le monde ?
Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, ça s'est bien développé. Aujourd'hui, on n'est plus Quimer, mais plutôt Quimar, parce que tout simplement, on fait plus que le cuir de poisson, mais on a intégré d'autres types de cuir.
Quand vous dites « on », vous parlez de qui ?
Alors effectivement, je vais parler de ça. Il y a Ilan Bnaim, c'est un super businessman qui a monté une licorne en France. VP, vente privée, si vous connaissez, c'est lui qui a rejoint après l'aventure en tant que business angel et qui m'a accompagnée, qui a cru en moi et qui m'a poussée à aller plus loin et voir plus grand. Et donc, il n'arrêtait pas de me dire « Aya, si tu sais faire la dentelle du cuir, qui est le cuir de poisson, parce que ce n'est pas du tout évident de faire le cuir de poisson, c'est très fragile, rien que le poisson, c'est très fragile. » Et c'est sensible. Donc, imaginez que le cuir de poisson, c'est encore plus compliqué à faire. Donc, il n'arrêtait pas de me dire, si on sait faire le cuir de poisson, qui est vraiment très compliqué, est-ce qu'on ne va pas savoir maîtriser le cuir classique, qui est le cuir de vache, le cuir de mouton et de chèvre ? En fait, je me disais que c'est vrai, si on sait faire ça, on peut aussi faire le cuir traditionnel. Donc, on a commencé à faire des tests. On a effectivement produit des cuirs de très belle qualité. Et donc, c'est là où on s'est dit, y a un très grand potentiel. On sait maîtriser ce type de cuir aussi. Pourquoi pas l'intégrer dans la gamme ? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a intégré dans l'offre. Et aujourd'hui, on a le cuir de poisson, le cuir de vache, mouton et chèvre aussi.
Ok, et donc vous produisez du cuir à quelle fin ? Est-ce que vous êtes arrivé aussi au produit fini ou pas encore ?
Alors, nous, quand on a commencé en tant qu'étudiant, c'est vrai qu'on a exploré pas mal de choses comme ça parce qu'on n'avait pas les compétences ni les moyens de vendre directement le cuir. Et en plus de ça, les gens ne connaissaient pas vraiment le cuir de poisson. Donc, il fallait vraiment qu'on le transforme sous forme de produit fini pour qu'on puisse le présenter aux clients. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et en parallèle, moi, j'ai suivi une formation à Paris sur la haute maroquinerie française, ce qui m'a permis aussi de comprendre les standards du luxe. Et donc, on avait justement pas mal de collections de produits finis, sacs à main, chaussures, jaquettes, la petite maroquinerie. Mais à un certain moment, il fallait absolument arrêter et se concentrer sur le cœur du métier qui est le cuir et de commencer à travailler avec des designers, des marques qui, eux, leur spécialité, c'est vraiment créer, innover et produire des produits finis. Donc aujourd'hui, on se positionne comme fournisseur de cuir et on travaille principalement avec des marques, des designers, principalement dans la mode.
D'accord. Et donc, c'est des produits qu'on trouve au Maroc ou à l'étranger surtout ?
À l'étranger surtout, oui. On travaille beaucoup avec l'export.
Comme quoi, par exemple ?
Alors, actuellement, on travaille beaucoup avec le marché nord-américain. Il y a une nouvelle business partner qui vient d'intégrer aussi l'aventure qui est Kalima, Alemi Mansour, et qui, elle a plus que 20 ans d'expérience dans le domaine du cuir. Elle a travaillé chez Nike, Puma aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, elle intègre Quimar pour accompagner cette croissance et pour surtout faire cette introduction dans le marché nord-américain.
Alors, maintenant, on va revenir au process. OK, donc ça, d'accord. C'est une aventure qui a démarré il y a 9 ans. à l'université, dans un club d'étudiants. Vous étiez plus d'une dizaine ensemble au départ, pour ensuite être deux, pour ensuite être seul. Et donc, vous avez monté finalement seul ce projet pour en faire aujourd'hui une vitrine du savoir-faire et de l'innovation marocaine. Et j'ai envie de connaître le process. Parce qu'au début, c'était, voilà, vous l'avez dit, il n'y avait pas d'engagement. Mais ensuite, comment vous l'avez structuré? Quels sont les leviers que vous êtes allés chercher? Tous ces éléments-là, en fait, qui ont transformé ce projet en un véritable espace d'innovation et d'entrepreneuriat réel.
D'accord. Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé, il faut savoir que le domaine du cuir au Maroc, c'est un domaine qui est en train de... Je n'ai pas envie de dire qu'il est en voie de disparition, mais vraiment qui n'est pas du tout valorisé. Et un des plus grands obstacles que moi, j'ai rencontré, c'était le manque d'écosystème à l'époque. Quand on se lance, par exemple, dans la tech ou dans la mode à l'international, on trouve des incubateurs, des mentors, des success stories locales pour s'inspirer. Ouais. Dans mon cas, c'était un peu difficile parce que dans le cuir durable et innovant au Maroc, il y avait rien de tout ça. Hein. Pas de modèle à copier, pas de route tracée. Et donc, j'ai dû tout construire en partant de zéro. Le produit, la vision, les réseaux, les process. Tout simplement, j'ai testé pas mal de choses. J'ai échoué, j'ai réessayé.
Mais le financement donc... aussi. Le financement, vous l'avez réussi comment ? La levée de fonds, parce que j'imagine que... Et le savoir-faire aussi, c'est un savoir-faire très pointu. Vous l'avez dit, c'est un savoir-faire scandinave que nous n'avons pas forcément au Maroc. Ça aussi, c'est un élément qui serait très intéressant peut-être à creuser avec vous, parce que vous êtes allé innover dans un produit dans lequel on n'a pas forcément une expertise nationale.
Effectivement. En fait, moi, pour le savoir-faire, moi, j'ai un background dans la gestion d'entreprise, donc rien à voir avec tout ce qui est science, chimie, etc. Mais quand même, je me suis formée dans le domaine. J'ai aussi fait une petite formation à Paris sur la haute maroquinerie française, juste pour comprendre un petit peu les codes du luxe, comprendre quels sont les cuirs les plus recherchés par les plus grandes maisons de luxe au monde. Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'identifier déjà quelles sont les caractéristiques à donner au cuir et comment on peut justement définir un cuir premium ou bien un cuir de luxe. Quand je suis revenue au Maroc, j'avais déjà un technicien, ingénieur qui chapeautait lui la partie production. Et donc avec lui, on a essayé de vraiment faire tous les tests possibles pour avoir les meilleures qualités.
D'accord.
Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, effectivement, on a des process qui nous permettent de définir les caractéristiques, définir ce qu'on veut donner pour le cuir. Et une fois qu'on le produit, on a les différentes finitions qui viennent aussi rajouter un plus au cuir, le toucher, la brillance, pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, on a pu développer ça et avoir des qualités qui sont haut de gamme, des qualités qui sont premium du cuir.
Vous travaillez à la main aussi ? Vous participez à la fabrication, à la création ?
Moi, non. Franchement, pour le moment, non. Mais bien sûr que je l'ai fait pendant plusieurs années. Au début, c'est moi qui faisais tout ça. Déjà, quand j'ai commencé, quand j'étais étudiante, ce qui m'a permis vraiment de rester dans ce domaine, c'était quand j'ai rencontré un super tanneur qui m'a vraiment ouvert la porte de ses laboratoires. Il avait un laboratoire de recherche et qui m'a aidé à vraiment comprendre le métier, comprendre la base de la chimie, développer des formules, faire des tests, etc. Et donc, c'est ce qui m'a permis effectivement de faire, moi, la production pendant quelques années, le temps de recruter des équipes, avoir des techniciens, des chefs de produits qui, eux, chapeautent aujourd'hui cette partie.
Alors, j'imagine que vous avez aussi dû investir dans leur formation.
Bien sûr, bien sûr, la formation, ouais, c'est quelque chose qui est très importante pour nous. J'ai une petite anecdote aussi à raconter, c'est que quand on cherchait en fait des super tanneurs à recruter, on n'arrivait pas à trouver, vraiment.
Pourtant, au Maroc, on est réputé pour la ville de Fès, par exemple, est réputée pour...
Effectivement, ouais. Effectivement, on a la plus ancienne tannerie traditionnelle au monde. Mm. Et c'est dommage qu'on n'arrive toujours pas à trouver des tanneurs ou bien des gens qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Et nous, on avait vraiment du mal à trouver des tanneurs. C'est soit on trouvait des tanneurs qui étaient un peu à la retraite pour travailler avec nous. Et donc, on ne trouvait pas des jeunes pour accompagner notre croissance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à un centre de formation. C'est le seul centre de formation pour le secteur de la tannerie en Afrique.
Ici, au Maroc
Ici au Maroc, effectivement, à Casablanca. Okay. On cherchait des tanneurs et ils nous ont dit que malheureusement, cette filière a été arrêtée pendant 12, je pense, ou 11 ans. Donc pendant 12, 11 ans, on a arrêté de former des techniciens, des tanneurs dans le domaine de la tannerie. Mm. On a trouvé hyper choquant. Et donc, on a pris l'initiative de relancer cette filière en finançant deux promotions. Donc aujourd'hui, on a des super tanneurs qui sortent de l'école, des lauréats, des premiers lauréats de cette formation, qui aujourd'hui rejoint l'aventure Cuimar.
Donc forcément, vous les recrutez ?
Pas tous, parce qu'on aimerait bien les recruter tous, mais effectivement, on a pris quelques-uns qui sont plus intéressés par ce qu'on fait et qui aujourd'hui aussi travaillent avec nous.
Mais j'imagine que ça a été, comme on dit, une prise de conscience finalement de se dire que ces métiers traditionnels sont délaissés par les jeunes. Et même quand on a des jeunes comme vous qui viennent innover dans un secteur traditionnel, il n'y a pas la main-d'œuvre. Il n'y a pas la formation nécessaire. Voilà, vous avez dû investir dans la formation de ces jeunes pour pouvoir les inclure et les mettre à bord, en fait.
Effectivement, effectivement.
Ouais. Alors, financement dans tout ça. Le financement, vous l'avez...
Le financement.
Voilà, ça c'est important aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, quelles sont les plus grandes leçons pour vous, en tant que jeune entrepreneur, que cette expérience qui dure maintenant depuis 9 ans, vous a donné?
Alors, pour les financements, c'est vrai que c'était un des challenges les plus importants dans ce parcours. Après, quand j'ai commencé, j'avais cette innocence je me disais que je pouvais effectivement développer tout ça sans forcément aller chercher à lever des fonds, etc. Et donc, en pensant ça, c'est ce qui m'a permis à développer des produits, vu que j'avais moi déjà une passion pour la mode. Donc, j'ai développé des produits de mode. C'est ce qui m'a permis de faire des premières ventes et aller chercher des clients qui sont plus importants. Donc, dans les premières années, on a vraiment pu financer toute l'activité à travers les ventes. Donc, mais c'était quand même une petite échelle de production et de vente aussi, c'était pas énorme. Ensuite, quand ça a commencé à prendre plus d'ampleur que j'ai su que c'est la mission que je veux poursuivre, c'est là où j'ai commencé à chercher des financements. Et donc, c'est là où Ilan Benaïm a rejoint l'équipe en tant que business angel. Donc, c'était le premier investisseur qui a financé l'activité. Ensuite, aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir aussi InFounders avec nous dans le bord. C'est un club de business angels de la diaspora marocaine qui investissent dans des fondateurs, des projets marocains.
Alors, quand vous avez ces personnes on board justement avec vous, est-ce que votre autonomie créative doit finalement changer, doit s'adapter ?
Alors, au contraire, moi, je me dis que plus on a de personnes dans le bord avec des backgrounds qui sont diversifiés, ça permet justement d'avoir plus de créativité et de bénéficier de l'intelligence collective pour créer encore plus de choses et faire des choses qui sont encore plus belles.
Oui. Alors, vous avez parlé de création il y a un moment. Est-ce que vous pensez pouvoir peut-être justement relancer une marque ?
Une marque, pour le moment, ce n'est pas vraiment la vision. La vision aujourd'hui, c'est vraiment de devenir la référence du cuir marocain dans le monde, avec des cuirs innovants comme le cuir de passant et d'autres types de cuir qu'on développe, mais aussi avec le cuir traditionnel qui est le cuir bovin, caprin, etc. Et donc voilà, on veut devenir vraiment la référence du cuir marocain de qualité en monde.
Alors, Aya El-Iraq, est-ce que vous vous imaginez rester dans ce projet toute votre vie, justement? Parce qu'on dit qu'un entrepreneur se transforme souvent en serial entrepreneur.
Alors, je ne me suis jamais posé cette question. Pour le moment, la vérité, je suis à fond sur ce que je fais. Mais peut-être dans l'avenir, pourquoi pas?
Oui, des ouvertures?
Des ouvertures, oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, franchement, on travaille sur des belles choses. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de développer. Et j'espère que ça va bien se passer. Et puis, qui va m'ouvrir la porte vers d'autres opportunités. Et
on a
voilà.
Parlé...
Pardon,
allez-y.
Mais en tout cas, je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne et je ne me vois pas du tout à faire d'autres choses. Donc voilà.
Alors, on a parlé de vos parents au tout début d'interview. Aujourd'hui, ils voient votre parcours, justement, assez atypique. Comment?
Ah bah oui, mes parents aujourd'hui sont très convaincus et très fiers. Et franchement, pour le moment, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Et voilà.
Aya El-Iraq, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yasmine.
C'est un plaisir de vous avoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.